venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Tu passes dans le hood, en fin de semaine, la semaine prochaine c'est good. Désolé, j'ai pas d'expact depuis un bout. J'ai quelques regrets, mais je reste debout.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Bienvenue à des Kiwis et des Nerds, votre rendez-vous hebdomadaire des dimanches midi. Donc, encore une fois, fidèle à notre habitude, une nouvelle chroniqueuse, un nouveau chroniqueur et l'incontournable Maya Fizet. Mais on va commencer donc par laisser Mélodie se présenter. Donc, Mélodie, toi, c'est ta première fois à l'émission de radio, en fait, à la radio en général. Peux-tu nous parler un peu de ton background?
Ben, mon background... Mettons que je parle de mon background scolaire. J'ai un DEC en communication dans lequel j'ai fait un peu de journalisme, un peu de cinéma. Sinon, à l'université, je vais être un bac multi en arts. J'allais composer un certificat en études cinématographiques, un en théâtre et un en création littéraire. Donc, je m'intéresse beaucoup au domaine des arts.
Non. Exactement les trois mêmes certificats, là, c'est un peu...
Donc, je vais laisser Mathieu se présenter.
Je m'excuse, là, il fallait que... Je suis désolé.
Il y a une partie de la présentation de Mélodie qui a fait la présentation de Mathieu.
Oui, non, c'est ça. On complétera ma partie après. Mélodie, je vais te laisser. Mais oui, non, c'est ça. J'ai le même bac, fait que c'est un peu spécial.
Ouais, ben moi, j'ai le même deck que toi, par contre.
Ouais, on se parlait de nos profs à un moment donné, c'était drôle.
Ouais, exact. C'était quand même assez marrant. Et pour la petite anecdote, mais je vais en reparler tout à l'heure, Mélodie était ma caporale dans les cadets. C'est ce qu'on s'est rendu compte. Donc, on se connaît depuis.
J'espère que t'en parles pas. Mon Dieu.
Trop tard.
Ça fait longtemps.
C'est fait. Toi, de ton côté, Mathieu?
Moi, j'ai fait mon collège en sciences humaines, spécialisation sciences et religions. J'ai fait mon bac. En fait, je suis rentré en théâtre à Laval. Je voulais faire de la mise en scène. L'école de jeu de Laval étant orientée autour de la biomécanique, j'ai décroché assez rapidement. Je suis allé faire cinéma, je suis allé faire création littéraire. Je suis passé à maîtrise. J'ai travaillé l'épistémé de l'optique et puis la phénoménologie beckettienne. Vous ne comprenez rien, c'est normal. Et ensuite, je n'ai pas terminé mon mémoire de maîtrise. Là, je suis rentré travailler à temps plein, puis j'ai jamais fini mon mémoire.
Je vais assumer que Beckett est un auteur.
Beckett est un auteur dramaturge. Écossais, qui a connu un succès en fait en travaillant français. C'est assez intéressant. Il y aurait peut-être des choses à chercher sur l'exil chez Beckett, sans doute.
OK. Et de notre côté, donc, ça va être un test aujourd'hui. C'est la première fois que je fais ça, car malheureusement, elle ne pouvait être présente parmi nous. Donc, il y a Maya Fizet, si tu veux bien essayer de parler, qui est chez elle. Et malheureusement, on ne l'entend pas. Donc, je vais tenter de corriger cela alors que Mélodie, elle, de son côté, pourra commencer avec une anecdote, que ce soit quelque chose d'un peu cocasse qui t'est arrivé, que ce soit cette semaine, dans la dernière année. On peut tricher, les auditeurs ne le savent pas si les événements sont récents ou non.
Ben, je mentirai pas, c'est ma fête aujourd'hui.
Ta-da! Joyeux anniversaire.
C'est ça, mon fait.
Donc, pour son anniversaire, elle a choisi de perdre sa virginité radiophonique. C'est une possibilité parmi tant d'autres.
C'est une virginité à perdre, hein?
Wow.
Formidable. Quant à moi, de mon côté, bien évidemment, hormis le fait que je suis en train d'essayer de fixer le son de l'ordinateur afin qu'on soit en mesure d'avoir un retour pour entendre Maya, j'ai très peu joué à des jeux cette semaine. En fait, l'un de mes contrôles où je fais du Donjon Dragon a comme évolué dans la mesure où l'un des animateurs qui était là ne pouvait plus être disponible, ce qui fait que je le remplace. Donc, moi qui voulais simplement avoir un emploi temps partiel, finalement, je me suis ramassé avec du temps plein à côté, niveau d'heure quand même assez infernal, ce qui fait que j'ai un peu moins de temps pour jouer à des jeux vidéo, mais que ô combien je vais avoir de l'argent pour acheter des jeux vidéo cependant. Et c'est là que ça va devenir intéressant, parce que les prochaines chroniques vont être assez divertissantes. J'ai acheté notamment Partisan 1941, je crois, qui est un jeu de stratégie, un peu à la manière, c'est différent, mais un peu à la manière d'un XCOM 2. Quant à toi, Mathieu?
Ma foi, je suis un peu... j'ai rencontré quelqu'un qui avait exactement le même bac multi que moi aujourd'hui. J'étais vraiment étonné. Je pensais que j'avais le seul qui avait ce cursus bizarre-là.
Ça, pour être récent, c'est très récent, par contre.
C'est très récent. Écoute, je voudrais... Ça fait à peu près 3 minutes.
Ouais.
Puis, autrement, c'est un peu ça. Je suis pas doué pour sortir des cocasseries comme ça au hasard. Je suis plus un gars de retour de ballon. Tu m'envoies le ballon, je lance le ballon. Puis...
Ben parfait, on va commencer la partie de soccer. Alors, en demandant à Mélodie de nous parler, si tu le souhaites, de ta chronique Your Lie in April.
Tu veux que j'enchaîne directement avec la chronique?
Oui, on pourrait commencer. Normalement, c'était à Maya de le faire, mais la distance qui nous sépare rend cela impossible.
C'est bien correct. Donc, bonjour, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je vous présente un manga qui m'a été suggéré par un ami qui, comme moi, est un passionné de la musique. C'est un manga qui s'intitule en français « Ton mensonge en avril » ou en anglais « Your Lie in April » et que vous pouvez aussi trouver sous le titre japonais « Kimiuso ». Pardonnez-moi le japonais. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, Je vais d'abord vous présenter une brève rafale d'informations générales à propos du manga. Ensuite, les caractéristiques plus intéressantes au niveau de l'histoire. Ensuite, je vais faire un petit résumé des personnages aussi. Je vais enchaîner avec des faits sur la création que je trouve intéressantes et un petit commentaire personnel.
Oh!
Ben oui. Tu sais, je peux pas m'empêcher d'analyser les affaires. Je vais être un bac là-dedans. Donc, pour commencer, la bande dessinée d'origine est l'œuvre de l'auteur et dessinateur Naoshi Arakawa. Il fait partie de la cible éditoriale Shonen. La sortie initiale des 11 volumes en version française est publiée par Kihon et se déroule entre avril 2015 et novembre 2016. Pardon. Et pour le plaisir des plus grands fans, un volume intitulé Your Lie in April Coda mettant en scène la préhistoire de l'action principale est publié en France en 2017. Ensuite, pour ce qui est ma partie de plaisir, en ce qui concerne les adaptations à l'écran, il existe une série animée et un film. Donc, la série, l'animé japonais...
Oh, excusez-moi, j'essaie de faire...
On tente de contacter notre correspondante.
Tu peux continuer, oui.
Je continue, parfait. Donc, l'animé japonais réalisé par Kiyoen Shiguro, pardon, est réalisé et scénarisé par Takoa Shioka, quelque chose du genre, pardon, est créé par le studio d'animation A1 Pictures. Elle est diffusée pour la première fois sur la chaîne Fuji TV entre octobre 2014 et mars 2015. Maintenant, la série contient deux saisons de 22 épisodes et chaque épisode dure environ 22 minutes, un format qu'on est habitué au nord de l'Amérique. Le film est réalisé par Takeshiko Shinjo, est créé par le studio Toho.
Ça fait beaucoup de points au backgammon puis au Scrabble,
oui,
ça.
Ouais,
non, mais on ne peut pas utiliser les noms propres au Scrabble.
Ah non, c'est vrai.
Ouais, non, c'est ça.
Ah, ben ça fait pas de points au Scrabble, alors.
Donc, je continue. Et le film est d'une durée de 122 minutes et est sorti en septembre 2016. Maintenant, la partie que j'aime bien, les genres. Je vais parler des genres. Donc, il y a la comédie, la tranche de vie, le drame, la tragédie et la romance. Et les thèmes sont la musique classique, l'amitié et l'amour. Personnellement, je veux ajouter le deuil et le traumatisme comme thème secondaire important.
Très important même.
Oui, puisque le thème du deuil est évident à repérer, là. Le personnage principal est en deuil de sa mère, donc...
Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce dont ça parle, en fait? Parce que je sais que le protagoniste, en fait, s'appelle Arima. C'est un espèce de jeune prodige.
Ouais. Je vais enchaîner avec ça dans pas long, inquiète-toi.
Parfait.
Et il y a aussi, comme autre thème secondaire important, le traumatisme. Puisque le personnage principal a des traumatismes par rapport à sa mère, qui, honnêtement, est un antagoniste dans l'histoire. Mm-hmm. Ça boit de sa mère, elle l'a plus ou moins aidé. Justement, j'enchaîne avec le synopsis, autrement dit, le sujet. Donc, l'histoire se passe au Japon, à l'époque où les ados utilisaient des téléphones cellulaires flip-flop. Donc, et justement, l'adolescent...
Pas si lointaine, somme toute.
Non, pas si lointaine.
Quasiment 15-20 ans.
Honnêtement, c'est le seul repère temporel que j'ai réussi à spotter pour dire ça vient d'où, ça vient de quand. Tu sais, on n'est pas dans l'Antiquité.
Effectivement.
Oui. Donc, notre cher protagoniste, Kosei Arima, est un jeune pianiste prodige depuis son enfance. Il excelle dans les compétitions auxquelles il participe en performant avec exactitude une partition. Cependant, sa mère, Saki, est à la fois pianiste et son professeur, mais elle décède subitement des suites d'une maladie grave dont les causes sont inconnues. Puis Kosei rate un concours qui aurait pu l'envoyer à l'international. Et bon, c'est ça. Suite à la défaite, ça a été très difficile pour lui. Et deux ans plus tard, Kosei rentre en dernière année de collège et fait la connaissance de la superbe Kaori Miyazono, une violoniste du même âge que lui. Et il va tomber amoureux immédiatement, mais il n'en parlera pas, comme tout bon petit gars gêné.
Et comme toute romance d'anime qui se respecte, on est au stade où ce que si après 15 épisodes ils se tiennent la main, c'est déjà beaucoup. Là.
Oui.
C'est ce genre de romance là.
C'est typique des mangas.
Ça. Oh oui, non, si quand ils se tiennent la main, c'est un grand moment. Quand il y a une déclaration, généralement on est vers la fin du manga. Là. Quand on parle des shonen, là, on pense notamment à Naruto, ce que Hinata se déclare après, je pense quelque chose comme 50 volumes, et Naruto n'entend même pas la déclaration au final. Donc, un petit classique.
Ouais, mais Naruto, ça reste un petit gars, ça le cachera pas. Là.
Ouais.
Il y a un petit gars énervé. Il y a quand même un démon dans le corps. Il a pas bien raison d'être énervé. Ouais, hein? Et bon, je vais continuer mon résumé. Alors, il y a de la difficulté avec son piano, c'est ça. Et il essaie tout de même de... c'est faire tabula rase de son passé musical, mais il n'y arrive pas puisque Kaori est vraiment entêté et redouble de courage pour recréer le lien entre Kosei et le piano en lui proposant de devenir son pianiste accompagnateur pour ses compétitions. Quand même un gros big deal.
Mm-hmm.
Ensuite, tu sais, Kosei est encore endeuillé, donc justement, il y a de la difficulté, il y a des blackouts pendant qu'il joue, ça se passe pas super bien, il revient sur la traque des fois, mais mm-hmm. c'est difficile pour lui. Maintenant...
Bon, on ouais, peut penser notamment à une scène où ce que tu parles des blackouts, justement, qui est quand même assez magnifique, où ce que Arima, en fait, il fait une énorme anxiété de performance, hein, parce que c'est ce qui se produit, où ce que lorsqu'il joue du piano, en fait, à un moment donné, c'est comme s'il était submergé sous l'eau, et lorsqu'il se met à pianoter, en fait, ben, il n'entend plus les touches, il n'entend plus les notes, donc c'est vraiment, c'est une anxiété de performance, mais la représentation visuelle avec laquelle c'est fait, elle est...
C'est magnifique.
Oui, c'est incroyable.
Il
n'y
a rien
incroyable.
De moins à dire. Puis justement, en parlant de ce super pianiste. Il était appelé le métronome humain quand il était petit, lui. C'est assez impressionnant, justement. Virtuose. Puis il a une oreille absolue, le gars. Moi, j'aimerais savoir ça. Donc, et ensuite, justement, sa rigueur au piano l'amène à des compétitions nationales un peu partout au Japon. Et justement, son problème d'oreille lorsqu'il joue, tu sais, au moment où il n'entend plus les notes
son
du piano,
c'est arrivé vers.
Ouais, c'est ça, c'est arrivé quand il avait à peu près 11 ans, suite au décès de sa mère. Donc, c'est vraiment triste. Il est traumatisé, le petit gars, pauvre, lui. Et c'est ça, donc.
Ben, par exemple, pour toi, Mathieu, tu disais tout à l'heure que tu connais un peu moins les mangas, lorsqu'on te fait un synopsis comme ça, est-ce que tu trouves que c'est une histoire qui a l'air intéressante ou est-ce que c'est pas le genre d'anime, de manga que tu voudrais regarder?
Pardonnez-moi, j'ai un peu de difficulté à suivre des synopsis lus mm-hmm. oralement comme ça. À cette écoute-là, moi, en fait, j'ai deux questions précises. En fait, un commentaire et une question. Un, je me suis fait dire, moi j'ai l'oreille relative, je l'ai développée avec le temps, je suis capable de savoir quand quelque chose est fit, quand quelque chose est sa tierce, sa quinte et compagnie, mais j'ai pas l'oreille absolue, tu sais, j'entends une note, je peux pas te dire ça c'est un do, tu sais, j'y arrive pas. Je me suis fait dire que c'était un peu tannant en fait, parce qu'à chaque fois que t'entends des sons, ben t'entends, tu sais exactement c'est quelle note, oui. Puis à chaque fois que t'as une petite affaire qui fausse, c'est...
Les professeurs, autant au cégep à l'université en musique, quand il y a un piano qui fausse, ça leur tape ses nerfs profondément.
Mm-hmm. Ben, moi, un peu aussi, quand même. Mais bref. Et là, tu disais qu'il n'entend plus les notes. Tu disais avant qu'il avait l'oreille absolue. En anxiété de performance, je comprends, mais est-ce qu'il n'entend plus physiquement ou est-ce qu'il n'entend plus, il n'est plus capable de les reconnaître?
Il entre en transe. Il n'entend plus.
Ouais, je l'ai
dit. Un blackout, carrément.
C'est au plan de la métaphore, en fait, il n'entend plus, mais c'est simplement pour symboliser le fait que c'est la raison pour laquelle il n'arrive plus à jouer comme il faut. En fait, il est tellement désorienté par sa peur parce qu'il a beaucoup de craintes profondes vis-à-vis... disons que sa mère, dans les dernières années de sa vie, n'était pas particulièrement agréable avec lui.
Oui,
et ça fait qu'il y a un traumatisme réel avec son piano.
Oh, oui, OK. Okay.
Ah, oui, il est traumatisé, le petit gars, là, carrément.
Ça, sans aucun doute.
Puis ensuite, ben là, la partie un peu plus jojo s'en vient parce que, tu sais, dans l'histoire, plusieurs années plus tard, Kosei retrouve l'espoir et la joie de vivre grâce à ses amis qui l'aident énormément. Donc, Kaori, qui est la petite fille qui l'aide beaucoup et dont il est secrètement amoureux, tu sais, elle va l'aider à sortir du désespoir en le faisant pratiquer intensivement. Et c'est ça, il retrouve graduellement sa santé mentale et son jeu au piano évolue en même temps. Donc, il en guérit.
Fait qu'au final, c'est une histoire de guérison, de passage, en fait, de comment est-ce qu'on fait pour se remettre des traumatismes de l'enfance.
Entre autres, ben, c'est une proposition intéressante. Mm-hmm. C'est de tout simplement réessayer de faire ce qu'on aimait faire.
Et sans divulgacher ce qui se passe à la fin, toi, qu'est-ce qui est venu te chercher dans Kimi no Huso? Qu'est-ce qui fait que Your Lie in April, quand tu l'as regardé, tu t'es dit « Ah, ça, il faut que j'en parle, ça, c'est intéressant. »
Bien, je me suis fait proposer par un ami qui est encore plus poussé que moi dans le sujet. Mais, tu sais, moi, je suis une fan de musicienne. Je joue de la flûte traversière dans la vie. D'un cadet, je jouais de la trompette.
C'est vrai?
J'ai tout le temps pianoté un peu. Tu sais, mes parents m'ont acheté un petit piano quand j'avais 10 ans. Donc, et sinon, bien, c'est ça. La musique fait partie de ma vie depuis tellement longtemps que n'importe quoi qui touche moindrement la musique va m'intéresser d'une façon ou d'une autre. Puis si ça ne m'intéresse pas, je vais être capable de le dire pourquoi. Donc, ouais, c'est l'amour de la musique.
Fait que nos auditeurs, dans le fond, s'il y en a qui aiment la musique, qui ont un réel intérêt pour ça, c'est sûr et certain qu'ils vont aimer.
Oui. Il y a une grosse touche de réalisme, d'ailleurs, dans le contenu musical du manga. Donc, c'est adorable.
Dans l'approche en tant que telle du manga, parce que je sais que souvent, ça part un peu dans des délires, là. Mm-hmm. Mais je connais mal les mangas, mais de ce que j'ai vu, tu sais, il y a souvent des mangas sportifs, des trucs comme ça, tu vas prendre des affaires comme
ça. Ouais, des fois, ça part dans des gros délires.
Ouais, ça part vraiment dans des délires. Mais est-ce qu'on reste plus dans une atmosphère qui va être réaliste, lui aussi?
Ben, comme dans tout bon manga, quand il y a des excès de zèle, d'émotion, on part dans l'anime, vraiment. On part dans des...
Il y a une hyperbolisation qui se fait,
ouais,
oui. Mais...
Effectivement, mais il y a quand même des grosses attaches à la réalité. Puis ça, justement, je vais en parler un petit peu plus tard. J'ai un beau petit point de fun là-dessus.
Mais ça reste très terre-à-terre, parce que moi aussi, j'avais fait l'écoute. On peut facilement s'y retrouver. C'est pas le classique où ce que... le personnage, il trouve qu'une fille est jolie, il va se mettre à saigner du nez, puis il va s'envoler 5 mètres plus loin. Mm-hmm. On n'est pas dans le cartoonesque, là. On n'est pas dans cette animation-là, style cartoonesque.
Parce que je viens de terminer cette semaine, en fait, l'intégrale de Rémi sans famille. C'est pour moi un animé qui me touche énormément. J'ai fait des sessions de 3-4, de 4-5 épisodes, à chaque fois je braillais, c'est immanquable. Mm-hmm. Mais il y a de ça aussi, tu sais, de l'abandon, puis de l'adulterie, je dirais, tu sais, dans le fait de devoir se tenir de droit, devoir faire la job, tu sais.
L'enfant qui se fait imposer d'être un adulte, en fait, là.
Oui, un peu, mais, tu sais, cette imposition-là, on n'a pas le choix d'y passer, tu sais. Mm-hmm. Je veux dire, la vie, c'est un combat, puis on choisit pas les combats qui nous arrivent.
Particulièrement Rémi.
Particulièrement Rémi. Mm. Mais le personnage de Vitalis va être super intéressant là-dedans, tu sais. C'est vraiment lui qui apporte les outils à Rémi. Il est énormément chanceux pour ça. Tu sais, le côté que tu parles vraiment de deuil, puis de réconciliation avec cet état qui nous tombe dessus, en fait, d'être devoir devenir adulte. Puis le baume que la musique permet d'avoir, je comprends qu'on retrouve ça dans cette série-là.
Oui. Totalement, justement. Kozei est un enfant traumatisé qui se fera aider à l'aide de ses amis. Et en soi, moi, je trouve que c'est l'une des propositions d'un remède à la dépression, faire des choses qu'on aime avec des amis, entre autres. Mmh. J'ai écrit une pièce de théâtre dans laquelle le personnage principal, c'est l'une des pistes de solution pour sortir de la dépression, faire ce qu'il aime avec des amis.
Oui, bien, tout à fait. Hein. Lorsqu'on a des traumatismes, lorsque ça va mal, ben, dans tous les cas, faut aller consulter. Hein. Première des choses, avoir un professionnel, c'est important. Mais dans les choses qui peuvent aider, ben, c'est sûr et certain que de prendre du temps pour soi et d'être bien entouré. Hein, parce qu'au final, dans Kimi no Huso, ce qui fait que Arima parvient à passer outre tout ça, c'est qu'il a des amis qui sont là pour lui. Et surtout, sa rencontre avec
Kaori
fait que elle va le pousser, en fait, à se donner un peu plus parce qu'elle sait qui il est, elle sait qu'il en est capable. Au final, elle croit en lui. Donc, parfois, tout ce qu'il faut, c'est de croire.
Ben oui, puis je peux même vous la présenter plus précisément, en plus, parce que je t'ai rendu là. Donc, c'est ça, Kaori est une camarade de classe de la voisine de Kozei, tu sais, quand le monde est petit, là. Donc, elle devient justement une amie de Kozei. Elle jouait du piano quand elle avait 5 ans, mais elle a changé pour le violon. Et la raison est vraiment drôle, parce qu'elle a décidé d'apprendre le violon pour jouer plus tard avec Kozei. Hmm. Juste pour ça, là.
Spécifiquement.
C'est un petit peu... Je pense qu'il y a une petite obsession là-dedans. Donc, et c'est ça, ben, son but, c'est de ça, jouer avec lui. Et ensuite, en ce qui entrait à sa personnalité, ben, c'est quelqu'un de profondément positif et énergique. Elle se laisse pas faire. Justement, elle est très malade à travers ça, mais ça, j'en parle dans 2 secondes. Donc, Et là, en tant que musicienne, ce qui est particulier, c'est que sa liberté d'interprétation personnelle irrite les juges des concours musicaux. On les voit se fâcher, là, puis c'est tellement drôle parce que moi, je l'aime tellement, ce personnage-là. Et justement, son audace, malgré le fait que ça plaît pas aux juges, ça plaît au public. Il y a une ovation à chaque fois, capote sur elle, tu sais. Elle passerait bien ici, ça me ferait plaisir. Et ensuite, c'est ça, elle se met à travailler fort avec Kozei pour qu'il recommence à participer à des concours. Et justement, dans cette évolution-là, malgré tout, personnellement, malgré tout son courage, elle est profondément malade. Elle a une maladie qui ressemble à la maladie de la mère d'Arima. Et ça la paralyse tranquillement, pas vite. Elle sera hospitalisée, elle va faiblir. Puis là, ben, femme forte qu'elle est, ben, au lieu de se laisser mourir tout de suite, elle va quand même travailler fort avec son pianiste pour refaire des concours pour ne pas avoir de regrets. Donc, tu sais, mourir en paix. Là. Donc, quasiment un thème, mourir en paix. Hein.
Ben oui, ça l'est.
En soi, oui, sans doute.
Ben oui. Et malheureusement, je le dis-tu comment est-ce qu'il a fini ou je le dis pas?
On peut ne pas donner de divulgateur, mais oui. ce dont on peut s'attendre, c'est que vers la fin, on va avoir beaucoup d'émotions.
C'est correct, j'aime mieux ça. Je laisse la surprise, j'aime ça.
Oui, on vous encourage chez vous, dans votre voiture, ou peu importe où est-ce que vous l'écoutez, peut-être dans votre bain, hein, moi je ne juge pas. De l'écoute,
faites attention
c'est de
l'écoute. À l'électricité, par contre.
Oui, tout à fait, faites attention à l'électricité, on ne veut pas vous voir, on ne veut pas avoir d'accident. Mais on vous encourage à aller l'écouter, que ce soit directement après l'émission de radio, avec vos enfants,
ben
copains,
oui, ça
copines.
Ça s'écoute bien, là, ça se clenche bien les épisodes, là. Mm-hmm. C'est des 22 minutes. Donc.
Il y en a combien, des épisodes, au fait?
Ben, des épisodes, en tout, il y en a... Il y en a 22 par saison, puis il y a deux saisons. Donc,
ouais, c'est 44.
Quand même, il y a du stock. Il y a moyen d'avoir du fun.
C'est une petite écoute, mais c'est pas un anime à rallonge comme Naruto ou One Piece.
Vraiment
que si tu veux
pas.
Pouvoir tout écouter, t'en as pour les deux prochaines années. Là.
Vraiment pas, mais c'est ça. Il y a une belle liberté là-dedans. Puis là, je n'aurai pas le temps de présenter les autres personnages. C'est triste. Mais là, je vais parler de ce que...
Il nous reste encore 2 minutes avant la pause et passer à la prochaine chronique où nous retenterons d'appeler Maya cette fois-ci.
Super. Donc, je vais dire le reste de ce qui m'intéresse rapidement. L'auteur est tellement puriste qu'il s'est entretenu avec plusieurs musiciens professionnels pour s'assurer de la pertinence des représentations de la musique classique. Donc, c'est très concentré. Et quand je dis qu'il y a une grosse attache à la réalité, c'est que le réalisateur de la série animée se base sur des lieux réels pour représenter certains décors dans la série. Donc, c'est ça. Très, très puriste et très, très proche de la réalité. Et dans l'adaptation animée, la majorité des scènes avec un piano, le piano est magnifiquement dessiné au point où il y a des reflets, des touches du piano dans le bois.
Oui.
Dans le bois noir, c'est magnifique. Il y a des reflets des personnages aussi dedans et je trouve ça particulièrement magnifique. C'est de la belle job.
Ah oui, ça, ce qu'on peut difficilement contester, c'est que l'animation, elle est magnifique. Elle est colorée, elle brille, elle resplendit. Ça, c'est... Puis même pour 2014, c'est quand même assez impressionnant.
C'est souvent les détails qui font ça. Hein. Tu parles du reflet dans le noir du piano, des trucs comme ça. Quand on regarde, c'est les détails qui vont capter notre œil, qui vont capter notre attention. C'est des détails dont on va se souvenir souvent. T'sais.
Oui, c'est magnifique.
Donc, ça permet vraiment de construire quelque chose, j'imagine.
Formidable. Et donc, nous, on va pouvoir vous revenir après pour une autre chronique, après la pause. Et je vais en profiter pour vous faire écouter un des OST, donc un des soundtracks originales de Kimi no Uso, afin que vous ayez une petite idée de la beauté, de la clarté des musiques jouées.
Oui.
Depuis 25 ans, nous, on y passe à autre chose.
Ah yeah, yeah, ah yeah, yeah.
Chiz 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
écoutez toujours des Kiwi Dinners à Chiz 94.3.
Donc, après avoir écouté cette magnifique mélodie de Kimi no Uso, nous allons tenter une mélodie un peu moins gracieuse en ouvrant les ondes téléphoniques. Donc, pour la première fois, je n'ai encore jamais eu à faire ça, soyez indulgents avec moi, afin de voir si on est capable de rejoindre Maya depuis l'au-delà. Donc, si tu nous entends, Maya, appelle-nous. Eh bien, nous referons une tentative tout à l'heure. De notre côté, on peut retenter une dernière fois. Donc, vous me pardonnerez le petit intermède. Je me dis qu'au final, ça fait un petit élément humoristique.
Oui.
Avons-nous quelqu'un dans les ondes actuellement?
Oui. Bonjour. Hey,
formidable. Bonjour Maya. Donc, de notre côté, juste que vous ayez une petite idée de ce à quoi ça a ressemblé. Donc, les lumières se sont allumées comme dans Stranger Things, ce qui signifie que nous avons été appelés. Donc, Maya, tu nous parles actuellement depuis le monde à l'envers. Comment est-ce que
Exactement.
C'est là-bas?
Exactement.
Formidable. Comment est-ce que c'est dans le monde à l'envers?
COVID-2.
COVID-2.
Oui.
Donc, je ne l'avais pas spécifié, mais Maya ne pouvait pas être parmi nous parce que on est dans une 7e vague de COVID et elle ne voulait pas nous contaminer, ce qui, je crois, est une raison tout à fait valable.
Merci.
Donc, Maya, si tu veux nous parler de ta chronique, tu nous parlais aujourd'hui de Kaamelott, n'est-ce pas?
Oui, exactement. En fait, c'est une série avec laquelle j'ai grandi, sauf que je me suis rendu compte récemment que la série était vraiment moins connue que ce que je pensais. Ça s'appelle Kaamelott, mais ça s'écrit de façon vraiment étrange, genre K-A-A-M-E-L-O-T-T. Mm-hmm. Très compliqué. Mais à la base, la série, c'est une série avec des épisodes de 2 ou 3 minutes qui était censée remplacer Caméra Café en France. Mais c'est devenu tellement populaire que ça s'est rendu jusqu'au Québec. Maintenant, c'est rendu une série quand même assez culte pour beaucoup de gens. Kaamelott, c'est une série qui a eu droit à son adaptation / suite spin-off en BD, qui explique certaines anecdotes qui sont expliquées en 2 ou 3 phrases dans la série. Comme, par exemple, à un moment donné, ils vont parler de sièges de transport. Ils vont juste dire, mettons, j'ai tassé les sièges de transport, j'étais mis là. Il y a un des tomes de la BD au complet où est-ce que ça explique les mésaventures du siège de transport, comment il a été mis là.
C'est tellement Kaamelott comme humour.
Ouais.
Puis, il y a un film qui est sorti il y a quand même un petit bout maintenant, mais ça a un peu aidé à populariser la série. Le film, à la base, était censé sortir en juillet 2020 en France, mais à cause de la pandémie, le film a été repoussé, je crois, 4 fois. Et il a finalement sorti en juillet 2021 un peu partout. Ce que je trouve quand même bien avec cette série-là, c'est que c'est une série humoristique avec les personnages de la table ronde. Il y a entre autres Perceval, Arthur et la Dame Blanche, mais il y en a beaucoup d'autres. Les épisodes sont quand même assez courts, puis c'est rapide à regarder. Puis les blagues sont bien placées pour mettre bien l'ambiance de la série. Comme c'est la table ronde, vous allez comprendre que ça se passe en temps médiévaux. Les costumes sont bien, mais reflètent quand même bien le ton de la série aussi. C'est fait dans l'humour. Ils font exprès de faire des costumes beaucoup trop clichés, tout cliché pour aucune raison.
Ouais, on est vraiment avec des traits qui sont parfois grossiers. Là. Notamment, en fait, les scènes les plus cultes de la série, c'est très souvent avec Perceval, puis généralement, c'est des phrases qui font aucun sens, même dans le contexte. Donc,
ouais,
ça reflète effectivement l'humour.
Ouais. Comme j'allais dire, justement, les histoires, ils n'ont pas toujours de lien entre eux, mais ça se suit bien. Tu peux écouter 2-3 épisodes, ça n'a aucun sens, mais ça va se suivre quand même. Il y a un petit truc que j'ai remarqué, c'est que tout au long de la série, on nous explique les règles du jeu ouvrez les guillemets, parce que c'est ça le titre du jeu, le cul de chouette.
Oui, qui est le jeu qui vient de la province de Perceval.
Oui, exactement. J'ai essayé de comprendre les règles de ce jeu-là. C'est très long et incompréhensible, comme la série d'ailleurs. Mais c'est un vrai jeu qui existe puis qu'on peut jouer chez nous.
Oui, effectivement, les règlements sont disponibles. Moi, là-dessus, je vais dire comme Arthur, hein, c'est pas le jeu qui est compliqué. Je veux dire, quand on l'a très bien compliqué, je vais dire comme Perceval, c'est pas le jeu qui est compliqué, c'est les autres qui sont cons.
Exactement, oui. Mais ouais, si vous avez quand même un bon 2-3 heures à perdre juste pour lire les règlements, ça vaut la peine, peut-être. J'ai pas essayé, mais...
Bah, tu parles à des gens qui font du donjon dragon papier, là, je pense que...
On devrait être correct.
Je comprends la nuance, j'ai aucune idée c'est quoi. Ça me décourage correct. D'avance, mais c'est pas grave, c'est drôle.
Non, mais l'important, c'est les valeurs, hein, c'est tout.
Ouais.
Mais ouais, si vous avez du temps à perdre, je vous invite à essayer le jeu, qui est, comme j'ai dit, très compliqué à comprendre. Mais ce que je peux vous dire, que ça doit être les règlements les plus simples, c'est que vous allez avoir besoin d'oignons et d'artichauts.
Ben oui, ben il faut faire artichettes.
Wow, oui, je pensais pas avoir besoin d'aller à l'épicerie pour faire un jeu de société.
Oh, je suis dans un épisode de Kaamelott en ce moment, c'est horrible.
Si vous voulez jouer, les règlements sont disponibles sur Google, puis c'est très facile à trouver.
Super. Et au niveau de la série, parce que la série, en fait, comme tu l'as dit, a commencé avec des petits épisodes de 2 à 3 minutes, mais au fur et à mesure que les saisons avancent, en fait, on voit que Alexandre Astier, le réalisateur qui joue aussi Arthur, il commence à complexifier ses personnages, à rajouter un peu plus de détails. On passe d'un humour qui est très fin, hein, on pense à Perceval, le truc du cul de chouette, le fait qu'il se rend compte que tout le monde à la table ronde sont quand même de sacrés idiots, il y a des scènes où Arthur, il parle carrément de se suicider là, dans les dernières saisons.
Ouais, exactement. Ça devient plus sérieux sans être trop sérieux non plus, mais l'humour disparaît un peu à un moment donné.
Bon, en même temps, si je peux me permettre, pour avoir écouté beaucoup d'entrevues d'Alexandre Astier, tu sais, le Kaamelott, c'est une tragédie.
Mm-hmm.
Je veux dire, Arthur est dépressif, clairement, puis c'est pas tant... Les personnages sont pas tant idiots qu'écrits comme des enfants.
Mm-hmm. Ben, en fait, même, puis j'imagine que c'est quelque chose dont tu allais nous parler, Maya, mais lorsqu'on est dans la saison où on est à Rome, ben, de ce coup, les personnages commencent à devenir intelligents, manipulateurs, il y a des intrigues politiques, il y a plein d'éléments comme ça qui viennent. Puis ça fait que ça vient remettre en perspective, en fait, lorsqu'on retourne sur les terres irlandaises, lorsqu'on arrive dans les Royaumes-Unis, ben, le fait qu'Arthur soit encore autant attaché à cette terre-là, ben, c'est parce qu'au final... Les gens, ils n'ont juste pas eu d'éducation. Puis Arthur, lui, a eu cette chance-là de profiter de cette éducation-là. Il y a une explication derrière chaque vanne, derrière chaque petit élément drôle. Puis c'est ça qui fait qu'au final, c'est attachant. Parce que pourquoi est-ce qu'Arthur aime autant Perceval dans l'histoire? Ben, c'est parce que malgré le fait qu'il soit pas la personne la plus brillante dans le baril, on va dire, ben, c'est parce qu'au final, il y a les valeurs à la bonne place, le cœur est à la bonne place. Arthur était un outil politique alors qu'il était à Rome. Puis lorsqu'on arrive dans le... La terre de Hill, d'un seul coup, c'est en lui que les gens se mettent à avoir confiance.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais, ouais, je saurais pas quoi dire de plus, c'est pas mal. Ouais. Mais, si on en revient à l'adaptation, ouais. Un peu que ça a eu droit plus tard, ben, les BD, justement, genre, ils ont gardé vraiment l'essence de la série. Même chose pour le film. Mais la BD, ils font vraiment ça encore plus loufoque. Puis c'est vraiment plus de l'humour absurde avec des explications absurdes pour expliquer des trucs dans la série. Puis le film, c'est comme une suite, un peu. C'est comme... Ça se passe plus tard. Je sais plus c'est lequel, mais il me semble Arthur revient à quelque part créer... des problèmes, puis ça...
Ben, il retourne à Rome, en fait.
Ouais, ben ouais, ça exactement. Se passe 10 ans plus tard, en fait, puis c'est... Ouais. C'est Perceval qui a pris le pouvoir, qui finalement est capable de mettre la main sur lui par...
Lancelot.
Lancelot, merci. Merci, grosse différence.
Perceval qui prend le pouvoir, c'est... pas encore.
Ah!
On ne sait jamais!
Ah, les semi-croustillants, peut-être. Peut-être. Mais c'est ça, puis il revient, puis c'est vraiment le duc d'Aquitaine qui permet de le sauver, là, somme toute. Là. C'est vraiment un retour du roi, là, c'est ça qui est intéressant. Là, on est 10 ans plus tard après la série. Puis comme elle l'indiquait, il y a vraiment, t'sais, c'est vraiment une tragédie, il y a vraiment une descente qui se fait, en fait. T'sais. Au début, on va partir, ça va être l'humour très rapide, très sketch. Enfin, au début, c'est un court-métrage d'une vingtaine de minutes qui s'appelait Dies Irae,
ouais.
La colère de Dieu. Déjà, on n'est pas dans le jojo, là. Puis quand on va rentrer, on va commencer les séries au début. C'est un format court, 2 minutes. Finalement, la saison 5, si je me trompe pas, on va commencer à avoir des très longues épisodes
épisodes de 45 minutes. Et là, on rentre dans la longue mise en scène, dans le long travail, mm-hmm. dans le travail des personnages vraiment approfondi. Quoique, il y a vraiment un bon développement des personnages qui se fait avant ça. La saison 6 est un retour en arrière, comme elle expliquait. On va se ramasser à Rome dans l'enfance de... l'enfance, adolescence et jeune adulte de Arthur et comment il va devenir roi de Bretagne. Puis elle indiquait vraiment que c'est un outil politique à Rome, mais étonnamment, quand il arrive dans le royaume de l'ogre, le royaume de l'ogre étant le royaume mythique de Arthur, mm-hmm. qui réunit, en fait, ça va complètement du nord de l'Écosse jusqu'au sud de l'Aquitaine, sud de l'Aquitaine qui va dépasser les Pyrénées un peu, donc c'est vraiment le grand royaume mythique celtique. On va, à ce moment-là aussi, il devient un outil politique pour son beau-père, Léodagan, mm-hmm. Qui en profite pour accéder à la royauté familiale, en fait, en mariant sa fille à Arthur. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment des jeux de ruse dans cette série-là qui se passent, qui sont très politiques, très profonds. Et puis, il y a une phrase qui est exceptionnelle, qui est dite par l'empereur romain, en fait, lorsque Arthur va pouvoir aller le voir. Tu sais, un juste, je paraphrase, là, mais un juste ne se bat que pour la liberté des faibles. Mm-hmm. Il y a de ça dans le personnage d'Arthur qui est superbe, en fait. T'sais. Puis lorsqu'elle parlait de l'absurdité dans les décors et dans les costumes, vraiment, il y a ça va monter tout le long de la série. T'sais, cette mm-hmm. descente-là dramatique, cette descente-là tragique. Et dans le film, c'est vraiment le paroxysme, sans doute, là, des costumes un peu ridicules, puis des agissements un peu risibles. Moi, j'étais un gros fan de la série, vraiment. Oui. Là. Puis j'ai hâte de voir le deuxième et troisième film là, ouais. qui devraient s'en venir. Je te repasse la POC, ma chère.
Justement, est-ce que la bande dessinée, parce que tu nous parles d'adaptation surtout, est-ce que ça va autant en profondeur dans ce que Mathieu vient de nous décrire? Est-ce qu'il y a des moments touchants dans les personnages ou est-ce qu'on est vraiment plus dans l'explication grotesque, comme par exemple le cul de chouette ou les chaises et ce genre de choses? Est-ce qu'on reste uniquement dans l'absurde puis qui profite du médium pour faire des gags visuels qu'on serait pas capable de faire dans la série ou est-ce que on garde quand même cette saveur-là?
Ben, j'ai pas eu le temps de lire toutes les BD, mais dans celles que j'ai eu le temps de lire, c'est vraiment plus absurde. Pis des fois, il y a du sérieux, mais il y en a pas vraiment. Là. C'est vraiment plus de l'absurde, des gags. Puis, ouais, pas grand-chose de sérieux.
Puis ça se passe à quel moment au niveau de l'histoire? Est-ce qu'on est au tout début lorsqu'il arrive à Kaamelott ou est-ce qu'on est vers la fin, quelques temps avant que tout parte en cacahuète, si je puis dire?
C'est un peu partout.
Okay.
Parce que je pense chaque tome raconte une ou deux anecdotes, mais vraiment plus en détail, comme justement le siège de transport. Il y a un tome au complet qui parle juste des sièges de transport, alors que dans la série, on en parle gros maximum trois phrases.
Ouais.
Mais là, il y a un tome au complet qui te détaille tout ce qui s'est passé avec. Ouais, pas mal toutes les tomes, c'est vraiment une anecdote qui est racontée vraiment de façon courte dans la série. Est détaillé un maximum avec beaucoup de gags.
Parfait. Il nous reste encore 2-3 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dont tu voudrais nous parler au niveau de l'adaptation de la bande dessinée versus Kaamelott?
Ce que je pourrais dire, c'est que les graphiques de la série, ça commence à dater, donc c'est un peu plus vieux. Mm-hmm. Dans la BD, c'est vraiment des dessins réalistes et tout, fait que ça va pas... Il n'y a pas tout le monde qui peut apprécier genre les dessins parce que c'est quand même...
Est-ce qu'ils ont essayé de retranscrire le plus fidèlement possible l'apparence des acteurs? Est-ce que ça a l'air d'être de la photo ou est-ce que c'est autre chose?
Ouais, ben ça vraiment... ça ressemble un peu aux acteurs, mais c'est vraiment apparence comique, genre les vieux Superman et compagnie. C'est vraiment détaillé comme dessin. C'est pas comme des dessins un peu enfantins, moins détaillés. Il y a vraiment... on voit les hachures dans les dessins. On voit tous les détails des dessins. Fait que ça va pas nécessairement plaire à tout le monde. Mais c'est quand même beau comme dessin, selon moi.
J'ai envie de dire, parce que j'ai une image que je vais partager sur notre page Facebook tout à l'heure, j'ai envie de dire, ça ressemble un petit peu à une version un peu plus réaliste d'un Astérix.
Mmh. Ouais, exactement.
Au niveau de la bande dessinée, là, je trouve que c'est très, très, très semblable.
Ouais. Mais ce que je pourrais dire d'autre, c'est que si la série vous intéresse et que vous connaissiez pas déjà, ben c'est disponible sur YouTube.
Oui.
Ça se trouve quand même assez bien si on sait comment l'épeler, parce que...
Ouais, c'est avec un K.
K-A-A-M-E-L-O-T-T. D'ailleurs, anecdote, Alexandre Astier a rajouté un deuxième T à la fin parce que les gens avaient tendance à dire Camelot.
Ah.
Mais il voulait vraiment que les gens disent Camelot. Donc, c'est pour ça qu'il a mis deux T à la fin du nom.
Ben, parce qu'au final, c'est le jeu de mots. Hein.
Oui, ben, ouais. Oui.
Formidable. Eh bien, merci d'avoir été en mesure d'être des nôtres, Maya, malgré le fait que tu sois dans le upside down, dans le monde à l'envers. Est-ce que tu as un mot de la fin avant que je coupe toute communication avec l'au-delà?
Ben, la série est en français, donc il n'y aura pas de problème. Vous pouvez l'écouter, vous allez bien comprendre.
Formidable. Un immense merci. Et toi, tu ne pourras pas être des nôtres pour quelques semaines quand tu t'en vas en tournage pour une web-série. Peux-tu nous mentionner laquelle?
Ouais, la série, c'est Dédale et Magie. C'est une série qui est inspirée de Donjons et Dragons. C'est ça?
Ouais, donc une série inspirée de Donjons et Dragons qui est censée faire quelques épisodes, qui vont être en tournage pendant la fin de l'été, qui est fait par l'un de nos chroniqueurs, Mick Landry. Donc, on s'en reparlera probablement dans les prochaines semaines. Et merci à toi d'avoir pu être parmi nous, Maya, malgré la maladie covideuse qui t'habite.
Ben, ça m'aura fait plaisir.
Parfait, passe une bonne journée.
Bonne journée.
Bonne journée.
Super! Maintenant que les communications avec l'au-delà sont terminées, j'en profite quand même pour mentionner, puis tu pourras rajouter si tu le souhaites, Mathieu, ce qui est très très fort, avec, parce qu'Alexandre Astier, en fait, c'est un petit génie, là. Je veux dire, le gars, il fait de l'astrophysique,
Pas tant qu'il fait de l'astrophysique qu'il fait de la vulgarisation, ouais. L'astrophysique, on s'entend. Mais oui, effectivement, il touche à peu près à tout, là. Je veux dire, il va écrire, il va réaliser, il va monter, il va faire la musique, il joue, évidemment. Mm-hmm. Puis il vient d'une famille de musiciens, tu sais, la famille de le Sevilla, la mère d'Astier, puis son père ont une école de jeu à Lyon. Puis c'est vraiment là qu'il va prendre le métier, fait qu'il est dedans, il est né là-dedans tout jeune, tu sais.
Ouais,
dans tous ses projets, il y a sa famille, il y a ses parents, il y a son frère, son beau-frère, tout le monde est là, mais tu sais, tout le monde sont dans le métier, tu sais, fait que tu t'en retrouves pas avec quelqu'un qui sait pas jouer. Juste parce que c'est de la famille. Là.
Non, c'est ça.
Donc, c'est vraiment un produit de très haute qualité. Là. Kaamelott, vraiment, là, à meilleure raison. Là, si vous avez pas vu ça, sautez là-dessus. Mm-hmm. Il y a des phrases qui sont devenues cultes.
C'est très fort.
J'ai juste à dire que c'est pas faux. Puis, je veux dire.
Juste l'élément du cul-de-sweat, je veux dire, c'est devenu culte, ça aussi, là, quasiment toutes les phrases de Perceval et Caradoc. Il y a même des références dans des films qu'on pense pas qu'il y aurait des références à Kaamelott qui en ont. Ça a été un phénomène culturel quand même assez énorme, là, en France, Kaamelott.
En France, toute la francophonie, je vous dirais. Puis pour les traductions, je sais pas. Ça, je sais pas. Je suis pas au courant. Mais tu sais, la légende arthurienne en tant que telle est une légende qui a vraiment été utilisée, réutilisée, retravaillée encore, puis beaucoup. Fait qu'il y a énormément d'émules de ça. Donc,
ouais.
J'aimerais bien voir en fait l'exposition de Kaamelott, mais à l'extérieur de la francophonie.
Ça pourrait être un sujet intéressant pour une future chronique. Parlant de chronique, d'ailleurs, il nous reste encore... Il y a tellement de belles choses à raconter. On se peut plus. Mais il nous reste encore 8 minutes. Si tu le souhaites, tu vas pouvoir nous parler de civilisation. Donc, pas l'origine des civilisations, l'origine du monde, mais bel et bien le jeu Civilisation dont le plus récent opus a été voicé par Monsieur Je meurs en personne, Sean Bean.
Peut-être, c'est pas exactement là que je vais m'en aller, moi, okay. En fait. Civilisation, écoute, 8 minutes, j'aurais pensé qu'il y aurait une petite pause entre les deux, un petit peu plus de temps, mais on finit à 13h, fait que je vais y aller.
On va faire un speedrun.
All right. Donc, civilisation. A priori, l'histoire du jeu Civilisation, en fait, commence assez loin, c'est-à-dire dans les jeux de guerre du 17e siècle. À ce moment-là, en Prusse, on va se mettre à avoir vraiment des jeux de terre, mais tu sais, à l'instar des figurines là, avec les plateaux là, puis là tu vas calculer toutes tes distances toutes, puis on va former les gradés de l'armée prusse grâce à ces jeux de guerre là qu'on va appeler des Spielkrieg. Puis c'est ça qui va faire que les Prusses vont être capables de prendre le dessus sur les autres nations allemandes. Puis on s'étire, puis on avance, et notre chronique
en tant que tel débute en 1980, en fait.
Ooh.
Oui, oui, je sais, on a fait un gros saut en avant. Mais ça débute avec le jeu de table, Civilization. Mais d'abord, qu'est-ce que la civilisation en tant que telle? C'est quoi le concept de civilisation? En fait, la civilisation, on va dire que c'est l'ensemble des traits qui caractérisent l'état d'une société donnée du point de vue technique, intellectuel, politique et moral. Donc, il y a vraiment des ascensions qui vont se faire, d'une part sur un point de vue purement technique, purement scientifique, comme sociologique, et d'autre part sur un point de vue un peu moral. C'est-à-dire que l'évolution du terme de civilisation va changer avec le temps. Donc, lorsque vous allez découvrir les... Ah, en fait, bref, je m'en reprends, je me perds et je m'évade. Donc, je m'y reprends. Donc, cette évolution-là, dans le jeu de table Civilization en tant que tel, le premier jeu de table qui apparaît dans les années 80 est fait par une compagnie anglaise qui s'appelle Heartland Trefold.
Là, on parle pas d'un jeu à la risque. Là. On parle quelque chose d'un jeu de table.
C'est un jeu de table. On est dans le gros wargame. Et là, c'est là l'innovation, en fait, du jeu de table Civilization. C'est que... c'est un jeu qui se passe dans le bassin méditerranéen. C'était de 2 à 7 joueurs. On va avoir une extension pour pouvoir jouer à 8. On est dans le, je dirais peut-être un gros âge d'or des jeux de table à ce moment-là, dans les années 80. C'est là que va commencer vraiment à fleurir les Donjons Dragons et compagnie. Les premières compagnies de jeux vidéo aussi, vraiment les grosses. Donc ce jeu-là, c'est un jeu de guerre, mais le propre du jeu Civilization, c'est que toute la game se passe vraiment dans la diplomatie.
Ouais.
L'idée, c'est d'être capable d'échanger des ressources avec les autres, d'avoir des traits diplomatiques avec l'autre. Et puis, c'est un jeu qui est très, très, très long. On parle de 8-10 heures.
Oui.
Ce qui est long, c'est les tours de table, de préparer les mouvements. Puis, on gagne pas en exterminant les autres, en fait. Dans ce jeu de table-là, tu vas avoir un arbre de technologie, et on va y revenir, sur lequel tu gagnes lorsque tu arrives complètement au bout de l'arbre de technologie. Donc, vraiment une question de victoire scientifique. Et puis, il y a des étapes à passer. Il faut que tu ailles atteindre certains niveaux, il faut que tu ailles faire certaines choses pour être capable de passer des étapes de science. Donc, on est dans les années... Et c'est Avalon Hill. Avalon Hill, retenez ça. On va y revenir. C'est une compagnie qui est très importante dans l'histoire des wargames. Et donc, on va avoir des jeux vidéo qui vont avoir, dans les années 80, qui vont se développer beaucoup. Beaucoup de wargames comme ça. Avalon Hill va en faire énormément. Heartland va en faire aussi. Et puis, va arriver en 91, mes excuses, avec Microprose. Sid Meier va faire le jeu vidéo Civilization en tant que tel. Ce qu'il va faire, c'est vraiment un mélange de tous ces wargames-là des années 80, qui sont du tour par tour ou en temps réel, généralement avec des cases sur lesquelles on va déplacer des pièces. Il va faire le jeu Civilization. Le premier jeu Civilization, c'est assez simple en tant que tel, en fait. C'est un jeu de guerre, un jeu de conquête, un jeu de domination. Ce qu'on va appeler les 4X. Le terme des 4X, en fait, va apparaître en 93, un peu plus tard, hein, quand on va parler de Master of Orion. C'est là que le terme va apparaître. Par 4X, on veut dire, en fait, explore, expand, exploit, exterminate. Donc, explorer, s'étendre, exploiter, et puis exterminer. Et c'est là qu'on est que c'est intéressant versus le jeu de stratégie typique.
Ou le but est de juste triompher.
Oui, mais c'est pas tant ça, en fait. C'est une question de micro-gestion, beaucoup. Mm-hmm. C'est une question d'avoir des villes en tant que telles, d'avoir une gestion à l'intérieur des villes, d'avoir des gestions de ressources, d'avoir des gestions politiques. Mm-hmm. Et d'avoir une victoire qui n'est pas nécessairement uniquement militaire. Et c'est ça que va reprendre beaucoup le jeu Civilization, le premier, du jeu de table, en fait. Fait qu'on va avoir à la fois une possibilité de victoire militaire, simple, qui se trouve à être de juste dominer tous les autres, et sinon, on va avoir la victoire scientifique qui va être de se rendre sur une... j'oublie le nom de la planète, mais dans Alpha Centauri.
L'objectif, c'est d'aller dans la conquête spatiale.
Oui, c'est ça. Donc, il y a deux victoires au début, vraiment la victoire militaire et la victoire scientifique. Et on a plusieurs civilisations à ce moment-là, déjà, qui, à ce moment-là, n'ont pas vraiment d'effets différents, en fait. Mm-hmm. Donc, on est en 91, va arriver une courte Hollywood, Microprose sort sur PC. Spectrum Holobyte va acheter Microprose en 93. Spectrum Holobyte, ça appartient. En fait, c'est une compagnie qui va faire beaucoup, beaucoup de logiciels pour Spectrum, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est affilié avec le propriétaire de Spectrum. Et puis, quand on va arriver en 96, on va vouloir fusionner MicroProse et Spectrum. Donc là, Sid Meier veut garder son indépendance, va partir et va aller fonder Firaxis avec un dénommé Gibbs. Donc, à ce moment-là, il y a Avalon Hill, on avait parlé un petit peu plus tôt, Avalon Hill, qui éditait le jeu vidéo, le jeu de table, pardon, ouais, dans les années 80 pour les États-Unis, va sortir son propre jeu vidéo, Avalon Hill Civilization. Et là, je vais aller vraiment rapidement.
Pas facile d'entrer à l'intérieur du temps, mais ce qu'on pourra faire, ce sera découper la chronique en deux parties, si jamais tu le souhaites, Mathieu.
Ben oui, mais écoutez, je vais aller vraiment rapidement, en fait. On va avoir beaucoup d'évolutions. Dans le deuxième, on va rajouter des types de gouvernement, on va rajouter les concepts de pollution, qui vont revenir plus tard. À ce moment-là, on est en carré. Le quatrième, vraiment, va faire une grosse évolution sur le jeu, sur les politiques. D'ailleurs, si tu veux mettre Baba Yetou bien rapidement, tout c'est une chanson qui a gagné. Qui a été utilisé pour les Jeux mondiaux en 2009, qui a gagné Grammys en 2011 pour The Best Instrumental Arrangement Accompanying Vocalist. Donc, vous avez probablement déjà entendu ça. C'est Notre Père, carrément, en langue africaine. Donc j'oublie le je me semble que c'est des langues zoulous, mais mes excuses si je me trompe. Donc, Civilization 4, et ce que Civilization 5 va apporter, c'est vraiment de passer de cases carrées à cases hexagonales, d'une part, et d'autre part, de ne plus pouvoir stacker les unités militaires une par-dessus l'autre.
Encore 10 secondes pour
ce. Donc, ça change complètement la dynamique du jeu, complètement la dynamique du jeu. Et dans Civilization 6, on va avoir des quartiers. Donc, normalement, pour grandir des villes, il faut mettre des bâtiments. Mais là, maintenant, pour avoir des bâtiments spécialisés, il faut avoir un quartier spécialisé qui occupe lui-même une case. Donc, la conception du terrain est complètement différente.
Et c'est la fin du speedrun! Tu vas avoir besoin d'un verre d'eau après ça, Mathieu, j'ai l'impression, mais félicitations! C'était beaucoup d'informations très concises en très peu de temps. Il nous reste encore 10 secondes avant de devoir partir à la pause. Donc moi, j'en profite pour vous inviter à nous réécouter, que ce soit en balado ou ailleurs, et de revenir la semaine prochaine ou une autre semaine afin de pouvoir entendre de manière plus complète et circoncise ce que Mathieu a à nous raconter sur Civilization et le phénomène des 4X, qui est, ma foi, fort intéressant.
J'ai pas touché le corps de mes notes.
Et non, mais il se faudra malheureusement que l'on s'en départisse pour cette semaine, mais ce n'est qu'une invitation à se revoir une prochaine fois. Merci à tous et on se revoit la semaine prochaine pour toujours plus de nerderie ensemble. Bonne journée à tous.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 mètres, la coupe vanille au bout du pied.
Frappé solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Vous écoutez Radio Futura.
Hi, my name is Stephanie. In Radio Futura, you listen my dad.
Digan lo que digan, somos la número uno.
Radio Futura.